Merci beaucoup, Maxime. Comme Jonathan a dit, à chacun de ces événements, nous voulons poser les grandes questions de la vie. Et cette fois-ci, il s'agit peut-être de la plus grande de toutes. Comment pourrais-je vivre à jamais? Nous parlons de la vie, et quand on parle de la vie, il faudra inévitablement faire face à la mort. Donc ce n'est pas une question anodine. Elle est aussi une question très personnelle. Il y a quelques années, une artiste américaine qui s'appelle Candy Chang, elle a lancé un nouveau projet d'art sous le titre « Avant de mourir, je veux ». Elle avait récemment perdu une amie et elle était sous le choc. Et peut-être que vous avez déjà traversé en quelque sorte la même chose. Pourtant, au lieu d'aller voir le thérapeute, elle s'est acheté de la peinture à tableau, elle a investi une maison abandonnée à Nouvelle-Orléans. Et avec des craies de couleur, les passants étaient invités à compléter librement la phrase « Avant de mourir, je veux » pour exprimer leur espoir, leur souhait, leur désir avant de quitter ce monde. Et c'était un espace public pour exprimer ces pensées souvent cachées. Ce qui a commencé par un projet artistique personnel est devenu un mouvement global. Et je pensais que ce serait intéressant de faire la même chose ce soir avant que nous regardions notre passage. Donc, j'ai créé un petit tableau électronique pour nous et je vais vous donner 3 minutes pour répondre, pour compléter les phrases avec vos propres idées, vos propres intérêts. Donc, avant de mourir, je veux visiter, manger, faire. Ok, donc je vous laisse 2 minutes pour faire ça dans vos petits groupes. Ok, qu'est-ce que vous avez dit de ce côté-ci pour qu'est-ce que vous voulez visiter? Ok, Amérique latine. Vous ici, qu'est-ce que vous voulez manger avant de mourir? Qu'est-ce que vous avez dit? Benoît, tu as dit des insectes, c'est ça? Très bon. Daniel, t'as dit quoi? Fish and chips, ok. Et vous faire, qu'est-ce que vous voulez faire? Un très bon plat africain, ok. Bien. Il s'avère que nous pensons tous de la vie, mais aussi de la mort. Nous avons tous une vie. Et cette semaine, Marks & Spencer, le magasin de Londres, a lancé une nouvelle campagne publicitaire qui s'appelle intitulée Spend It Well. Donc, Life, Spend It Well. Et donc, si nous avons tous une vie, la façon dont nous l'utilisons est importante, n'est-ce pas? La campagne publicitaire de Marks & Spencer pense que la façon dont tu utilises ta vie bien, c'est de dépenser autant d'argent à Marks & Spencer, autant de pulls que possible, autant de pantalons que possible. Pas de problème, mais il y a des questions derrière le slogan qui restent sans réponse. Comment bien utiliser sa vie? Pourquoi avons-nous une seule vie? Pourquoi mourons-nous? Pouvons-nous vivre à jamais? Comment pourrais-je vivre à jamais? Et je pense qu'à la lumière d'une vie, de notre vie si courte, c'est une question qui fait réfléchir. Comment pourrais-je vivre à jamais? Donc ce soir, je voudrais nous faire découvrir une histoire vraie, celle que Maxime vient de nous lire, qui a beaucoup à dire sur la vie et la mort. Et je voudrais nous donner 3 réflexions. Une réalité, une identité et une vérité à partir de ce récit qui feront peut-être un écho dans une culture comme la nôtre, une culture qui se cache de la mort. Donc, première réflexion, la mort est inévitable. La mort est inévitable. La façon dont nous parlons de la mort en dit long sur notre culture. Notre société évite de parler de la mort à tout prix. On dit « il s'est éteint, elle nous a quittés, il est parti vers un endroit meilleur ». Nous achetons du yaourt, des smoothies d'épinards, des abonnements à la salle de sport. Tout ça pour rester jeune. Nous remplissons notre vie avec toutes sortes de bonnes choses, comme le travail, la famille, parce qu'elles semblent rendre la vie plus sûre. Et pourtant, peu importe le niveau de réussite que nous avons ou la quantité de choses que nous possédons, nous laisserons tout derrière nous. La mort est inévitable. Et le passage que Maxime nous vient de lire montre que rien n'a changé, même après 2000 ans. Cette histoire parle de deux sœurs et un frère qui sont les amis de Jésus. Lazare, le frère, est récemment mort d'une maladie et il a été enseveli. Marie et Marthe, ses sœurs, sont bouleversées. Elles l'ont tellement, tellement aimé. Et c'est vrai que la mort nous rend impuissants. C'est une force implacable sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Quand ça frappe, nous ne pouvons que pleurer, qu'avoir peur, nous demander pourquoi. Et Marthe exprime bien cette réalité au verset 21. Voyez le verset 21, si vous voulez bien. Marthe dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En d'autres termes, Marthe sait que la mort n'appartient pas à ce monde. Elle veut pleurer. Elle veut que son frère revienne. La mort, c'est comme un virus pour lequel il n'y a pas de remède. Marthe n'y peut rien. On peut presque entendre les pleurs dans sa voix. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Aujourd'hui, on pense que l'idée de la mort réfute l'existence de Dieu. Si Dieu existe, il aurait certainement empêché ma maman de mourir du cancer, n'est-ce pas? Ou si Dieu existe, il aurait certainement arrêté la guerre en Syrie. Et c'est ça ce que les gens du verset 37 ont pensé aussi. Ouais, le verset 37, et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Il est intéressant, n'est-ce pas, que nous sachions que la mort est un problème énorme. La mort est le plus grand obstacle auquel l'humanité doit faire face. Et pourtant, certains d'entre nous en cachons. Nous faisons semblant qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'arrivera jamais. Ma grand-mère, elle a 82 ans. À la fin de ce mois, elle va partir en vacances pour faire un séjour de bateau, pour aller voir tous les phares sur la côte est de l'Angleterre. C'est la deuxième fois qu'elle est partie en vacances ce mois. Il y a quelques semaines, elle était dans le sud de l'Angleterre. Et l'été dernier, elle était à Lisbonne pour faire un tour de bus. Et voilà, c'était tellement fatigant qu'elle a dû repartir en vacances pour s'en remettre. Donc, elle passe toute sa vie en vacances. Et je me demande souvent... Est-ce que ma grand-mère a peur de la mort? Est-ce qu'elle se cache de la mort? Sa vie est tellement, tellement chargée, mais est-ce qu'elle repousse l'inévitable? Je ne sais pas, mais la mort nous affecte tous. Mais la plupart des gens n'y ont jamais réfléchi. Beaucoup ne veulent pas y réfléchir. Et ça se comprend, n'est-ce pas? La mort est inévitable. Deuxième réflexion, la vie est une personne, Jésus-Christ. Beaucoup se cachent de la mort. Par contre, pour Jésus, la mort n'est pas quelque chose dont il se cache. Pour Jésus, la mort, c'est un ennemi à vaincre. Jusqu'à ce point dans l'histoire, Jésus n'a fait rien d'autre que pleurer. Verset 35, pardon, Jésus pleura. Et c'est rassurant, n'est-ce pas? Jésus pleure, tout comme nous pleurons face à la mort. Mais ce n'est pas que Jésus se sent un peu pleureur. Voyez le verset 33. Le verset 33 nous dit que Jésus fut profondément indigné et bouleversé quand il a vu les amis de Lazare en deuil. La mort met Jésus en colère. La mort met Jésus en colère. Mais la question demeure, Jésus peut-il rien y faire? Et la réponse est bel et bien oui. Quand vous lisez le Jean chapitre 11, vous découvrez que Jésus réagit à la mort de manière complètement différente par rapport à l'humanité. Au verset 11, par exemple, Jésus décrit la mort comme s'étant endormie. Nous allons voir dans un instant que Jésus ramène Lazare à la vie. Mais Jésus peut réveiller quelqu'un de la mort aussi facilement que tu peux réveiller quelqu'un qui dort sur ton canapé. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Au verset 39, Jésus se rend au tombeau de Lazare et demande d'enlever la pierre. Et Marthe, quelqu'un de très pratique, répond à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Si vous habitez dans un pays chaud, vous tâchez d'enterrer le corps aussi vite que possible. Après 1 ou 2 jours, le corps commence à se décomposer. Et après 4 jours, il y a une odeur horrible. Mais malgré la perspective de chair pourrie, Jésus marche d'un pas décidé vers le tombeau et il crie ces fameux mots, « Lazare, sors !» C'est extraordinaire. Vous voyez l'ironie? Marthe avait dit à Jésus au verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et maintenant, Jésus est ici, devant le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 44. « Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Lazare s'est trompé de code vestimentaire, que les morts portent des bandelettes comme ça. Mais Lazare est vivant. Jésus peut même ramener à la vie un corps pourri. La plupart d'entre nous n'aimons pas trouver un sandwich pourri au frigo. Mais Jésus, quand il voit un corps pourri, peut le ramener à la vie, comme ça, en parlant. Mais comment est-ce donc possible? Comment Jésus peut-il faire ça? Voilà le verset 25, le verset clé de notre passage. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Jésus peut ramener à la vie un corps pourri parce qu'il est la résurrection et la vie. Nous avons tous passé les dernières semaines à considérer les promesses des politiciens, je pense. La stabilité économique, la sécurité nationale, l'unité, la liberté, l'égalité. Et nous espérons que Macron tiendra ses promesses. Mais même si Macron les tient toutes, vous ne l'entendrez jamais dire « C'est moi qui suis la stabilité économique » ou « C'est moi qui suis la sécurité nationale ». Ce serait un peu bizarre, voire un peu arrogant. Mais Jean veut nous persuader que Jésus n'est pas simplement capable de régler un problème, le problème de la mort. Non, il est la solution au problème de la mort. C'est son identité. Aucun homme ou femme politique n'a proposé une solution au problème de la mort. Mais pour Jésus, c'est différent. Pour Jésus, l'article le plus important de son manifeste, c'est détruire la mort. Un peu plus tôt dans l'évangile de Jean, Jésus a dit qu'il est venu sur cette terre pour que personne ne périsse. Et comme nous avons déjà dit, ce problème de la mort, c'est un problème qui concerne chaque Français, chaque Anglais, chaque personne sur cette planète. Mais Jésus, il est la solution. Et il peut tenir ses promesses parce qu'il est la vie. La mort est inévitable. La vie est une personne, Jésus-Christ. Troisième réflexion, crois en Jésus. C'est ce qui te permet de vivre à jamais. Google est sans aucun doute l'une des entreprises les plus connues du monde, je pense. Ils furent un pionnier de la recherche sur le web. Ils ont révolutionné la façon dont nous organisons notre vie. Ils ont presque créé, une voiture sans chauffeur. Et en 2015, ils ont ajouté encore une chose à leur liste des tâches. C'était inventer l'immortalité. Voilà. Et donc, grâce au développement technologique et biologique, Google espère surmonter les limites humaines d'ici 50 ans. Les êtres humains pourront vivre à jamais, selon Google, ou jusqu'à 500 ans, selon le chef du projet. Mais selon Jean 11, l'immortalité, ce n'est pas un concept science-fiction pour atteindre ou ne pas atteindre. Non, selon Jean 11, elle est possible de l'être maintenant, ce soir. L'immortalité est possible maintenant, ce soir. Jésus sait que la mort est horrible. Jésus est venu détruire la mort. Il se décrit comme la solution au problème de la mort. Mais de quoi s'agit-il? Pardon, ce n'est pas ce diapo. Voyez le verset 25, encore une fois, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La Bible nous dit que tous les êtres humains meurent pour une raison. Ce monde est allé de travers parce que nous sommes allés de travers. L'humanité a perdu la connexion avec Dieu. Pas de façon temporaire, comme quand tu n'as pas de réseau dans un tunnel. Non, c'est plutôt comme un vaisseau spatial qui a intentionnellement éteint la communication avec la Terre. Nous sommes seuls, à la dérive dans l'univers, sans réponse, sans espoir. Et la Bible décrit cette extinction de communication comme la rébellion contre Dieu, le péché. Si on rejette notre Créateur, nous commettons non seulement un acte stupide, mais un crime éternel. Le péché veut dire rejeter Dieu, le Dieu qui nous a tout donné, y compris la vie. Et le résultat, c'est la mort. La Bible dit que nous mourons parce que nous le méritons. Et c'est notre faute. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'était de rétablir la connexion entre nous et Dieu. En tant que Dieu lui-même, Jésus règle le problème de la mort et du péché que nous avons créé. Par nous-mêmes, il est impossible de régler ce problème. Chaque religion humaine, chaque philosophie, chaque système de pensée essaye de faire cela, mais sans succès. Il s'agit des tentatives humaines pour communiquer avec Dieu, pour atteindre Dieu, même pour survivre sans Dieu. Mais le message extraordinaire du christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui rétablit la connexion avec nous. L'évangile de Jean dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus nous sauve de la mort en mourant lui-même. En tant que Dieu, il a le pouvoir sur la mort. Et en tant qu'être humain, un être humain innocent, il peut prendre notre place. Et donc, 3 jours après sa crucifixion, Jésus ressuscite d'entre les morts. Et c'est à ce moment-là, il y a 2000 ans, juste en dehors de Jérusalem, que la lumière verte se rallume et la connexion entre l'humanité et Dieu est rétablie. Elle est encore une fois possible. Jésus est la première personne à mourir qui n'est pas restée morte. La vie est désormais possible pour le reste de l'humanité. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? L'humanité se cache naturellement de la mort. Nous n'en avons pas de solution. Pas même Google peut guérir la mort. Et à la fin, Jésus demande à chacun de nous, « Tu me feras confiance ? Tu me feras confiance ? Me feras-tu confiance même au moment de ta mort ? Je peux te donner la vie. » Dans l'évangile de Jean, quand on lit le mot « vie », il n'est pas question du train-train quotidien. La vie n'est pas un synonyme d'existence ou de survie. Non, la vie... Quand Jésus parle de la vie, ça veut dire la joie d'un mariage ou la sensation de pouvoir marcher après avoir été handicapé pendant 38 ans, ou la merveille de pouvoir voir après avoir été aveugle toute sa vie, ou d'avoir un père qui t'aime comme un de ses enfants, ou rentrer chez soi à la fin de la journée. C'est ça la vie, selon Jésus. Et donc Jésus vous offre un nouveau départ. Tout ce que vous souhaitez faire sur cette terre, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, sera un jour possible. En fait, même maintenant, quand quelqu'un place sa confiance en Jésus, cette personne a la vie. Et ça veut dire que si tu crois en Jésus, tu es indestructible. Donc, pour finir, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Qu'est-ce que vous faites cette semaine? Quels sont vos projets? Si vous êtes comme moi, vous passez beaucoup de temps à planifier votre semaine. Vous planifiez des rendez-vous, des repas, des vacances, des fêtes. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous avez planifié votre mort? Je ne veux pas dire, est-ce que vous avez choisi le bus par lequel vous allez être écrasé? Non, je veux dire, est-ce que vous êtes prêt à mourir? Ou êtes-vous à la dérive dans l'univers sans réponse et sans espoir? Pour commencer votre planification, pourquoi pas lire l'évangile de Jean? Ça explique la vie de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Et Jean, l'auteur de l'évangile, il a écrit le récit de Lazare pour vous, pour nous. Il décrit l'histoire de cet homme que Jésus a ramené à la vie pour que vous sachiez que Jésus peut faire de même pour vous. Jean conclut son livre en disant « Jésus a accompli, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il est très difficile de faire face à la mort sans avoir de réponse. Mais Jésus nous donne des réponses extraordinaires. Si seulement nous les écoutons. Notre verset, le verset 25 et 26, encore une fois. Jésus nous dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi, ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Bon, voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Nous avons parlé de beaucoup de choses assez profondes, mais nous allons passer quelques minutes autour des tables pour discuter de ce que nous avons vu dans ce passage. Si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous voulez dire, n'hésitez pas à les dire. Et nous allons passer 10-15 minutes ensemble à discuter des choses. Il y a 3 questions ici. Si vous avez d'autres questions, c'est parfait. Donc voilà, merci beaucoup. À vous de discuter.